Jane Eyre, chapitre 7. Les trois premiers mois passés à Lowood me semblèrent un siècle. Ce fut pour moi une lutte fatigante contre toutes sortes de difficultés. Il fallut s'accoutumer à un règlement nouveau, à des tâches dont je n'avais pas l'habitude. La crainte de manquer à quelqu'un de mes devoirs m'épuisait encore plus que les souffrances matérielles, bien que celles-ci ne fussent pas peu de choses. Pendant les mois de janvier, de février et de mars, les neiges épaisses et les dégels avaient rendu les routes impraticables. Aussi ne nous obligeait-on pas à sortir, si ce n'est pour aller à l'église. Cependant, on nous forçait à passer chaque jour une heure en plein air. Nos vêtements étaient insuffisants pour nous protéger contre un froid aussi rude. Au lieu de brodequins, nous n'avions que des souliers dans lesquels la neige entrait facilement. Nos mains, n'étant pas protégées par des gants, se couvraient d'engelures ainsi que nos pieds. Je me rappelle encore combien ceux-ci me faisaient souffrir chaque soir lorsque la chaleur les gonflait et chaque matin lorsqu'il fallait me rechausser. En outre, l'insuffisance de nourriture était un vrai supplice. Doués de ces grands appétits des enfants en croissance, nous avions à peine de quoi nous soutenir. Il en résultait un abus dont les plus jeunes avaient seuls à se plaindre. Chaque fois qu'elles en trouvaient l'occasion, les grandes, toujours affamées, menaçaient les petites pour obtenir une partie de leur portion. Bien des fois, j'ai partagé entre deux de ces quêteuses le précieux morceau de pain noir donné avec le café. Et après avoir versé à une troisième la moitié de ma tasse, j'avalais le reste en pleurant de faim tout bas. En hiver, les dimanches étaient de tristes jours. Nous avions 2 milles à faire pour arriver à l'église de Brocklebridge où officiait notre chef. Nous partions ayant froid, en arrivant, nous avions plus froid encore, et avant la fin de l'office du matin, nos membres étaient paralysés. Trop loin pour retourner dîner, nous recevions entre les deux services du pain et de la viande froide, et des parts aussi insuffisantes que dans nos repas ordinaires. Après l'office du soir, nous nous en retournions par une route escarpée. Le vent du nord soufflait si rudement sur le sommet des montagnes qu'il nous gerçait la peau. Je me rappellerai toujours Mademoiselle Temple. Elle marchait légèrement et avec rapidité le long des rangs accablés, ramenant sur sa poitrine son manteau qu'écartait un vent glacial. Et par ses préceptes et son exemple, elle encourageait tout le monde à demeurer ferme et à marcher en avant comme de vieux soldats. Quant aux autres maîtresses, pauvres créatures, elles étaient trop abattues elles-mêmes pour tenter d'égayer les élèves. Combien toutes nous désirions la lumière et la chaleur d'un feu pétillant lorsque nous arrivions à Lowood. Mais cette douceur était refusée aux petites. Chacun des foyers était immédiatement occupé par un double rang de grandes élèves, et les plus jeunes, se pressant les unes contre les autres, cachaient sous leur tablier leurs bras transis. Une petite jouissance nous était pourtant réservée. À 5 heures, on nous distribuait une double ration de pain et un peu de beurre. C'était le festin hebdomadaire auquel nous pensions d'un dimanche à l'autre. J'essayais en général de me réserver la moitié de ce délicieux repas. Quant au reste, je me voyais invariablement obligée de le partager. Le dimanche soir se passait à répéter par cœur le catéchisme, les 5e, 6e et 7e chapitres de Saint Matthieu, et à écouter un long sermon que nous lisait Mademoiselle Miller, dont les bâillements impossibles à réprimer attestaient assez la fatigue. Cette lecture était souvent interrompue par une douzaine de petites filles qui, gagnées par le sommeil, se mettaient à jouer le rôle de Ticus et tombaient, non pas d'un troisième grenier, mais d'un quatrième banc. On les ramassait à demi-mortes, et pour tout remède, on les forçait à se tenir debout au milieu de la salle jusqu'à la fin du sermon. Quelquefois, pourtant, leurs jambes fléchissaient, et toutes ensemble, elles tombaient à terre. Leur corps était alors soutenu par les grandes chaises des monitrices. Je n'ai pas encore parlé des visites de M. Brocklehurst. Il fut absent une partie du premier mois. Il avait peut-être prolongé son séjour chez son ami l'archidiacre. Cette absence était un soulagement pour moi. Je n'ai pas besoin de dire que j'avais des raisons pour craindre son arrivée. Il revint pourtant. J'habitais Lowood depuis 3 semaines environ. Une après-midi, comme j'étais assise, une ardoise sur mes genoux et très en peine d'achever une longue addition, mes yeux se levèrent avec distraction et se dirigèrent du côté de la fenêtre. Il me sembla voir passer une figure. Je la reconnus presque instinctivement. Et lorsque 2 minutes après, toute l'école, les professeurs y compris, se leva en masse, je n'eus pas besoin de regarder pour savoir qui l'on venait de saluer ainsi. Un long pas retentit en effet dans la salle, et le grand fantôme noir qui avait si désagréablement froncé le sourcil en m'examinant à Gateshead apparut à côté de Mademoiselle Temple. Elle aussi s'était levée. Je regardai de côté cette espèce de spectre. Je ne m'étais pas trompé. C'était M. Brocklehurst, avec son pardessus boutonné et l'air plus sombre, plus maigre et plus sévère que jamais. J'avais mes raisons pour craindre cette apparition. Je ne me rappelais que trop bien les dénonciations perfides de Mme Reed, la promesse faite par M. Brocklehurst d'instruire Mlle Temple et les autres maîtresses de ma nature corrompue. Depuis 3 semaines, je craignais l'accomplissement de cette promesse. Chaque jour, je regardais si cet homme n'arrivait pas, car ce qu'il allait dire de ma conversation avec lui et de ma vie passée allait me flétrir par avance. Et il était là, à côté de Mademoiselle Temple. Il lui parlait bas. J'étais convaincue qu'il révélait mes fautes, et j'examinais avec une douloureuse anxiété les yeux de la directrice, m'attendant sans cesse à voir leur noire orbite me lancer un regard d'aversion et de mépris. Je prêtai l'oreille. J'étais assez près d'eux pour entendre presque tout ce qu'ils disaient. Le sujet de leur conversation me délivra momentanément de mes craintes. « Je suppose, Mademoiselle Temple, disait M. Brocklehurst, que le fil acheté à Lowood fera l'affaire. Il me paraît d'une bonne grosseur pour les chemises de calico. » Je me suis aussi procuré des aiguilles qui me semblent convenir très bien au fil. Vous direz à Mademoiselle Smith que j'ai oublié les aiguilles à repriser, mais la semaine prochaine elle en recevra quelques paquets et sous aucun prétexte elle ne doit en donner plus d'une à chaque élève. Elle pourrait les perdre, et ce serait une occasion de désordre. Et à propos, madame, je voudrais que les bas de laine fussent mieux entretenus. Lorsque je vins ici la dernière fois, j'examinai en passant dans le jardin de la cuisine les vêtements qui séchaient sur les cordes, et je vis une très grande quantité de bas noirs en très mauvais état. La grandeur des trous attestait qu'ils n'avaient point été raccommodés à temps. Il s'arrêta. « Vos ordres seront exécutés, monsieur, » reprit Mademoiselle Temple. « Et puis, madame, » continua-t-il, « la blanchisseuse m'a dit que quelques-unes des petites filles avaient eu 2 collerettes dans 1 semaine. C'est trop. » La règle n'en permet qu'une. Je crois pouvoir expliquer ceci, monsieur. Agnès et Catherine Johnston avaient été invitées à prendre le thé avec quelques amis à Loughton, et je leur ai permis pour cette occasion de mettre des collerettes blanches. Monsieur Brocklehurst secoua la tête. Eh bien, pour une fois cela passera. Mais que de semblables faits ne se renouvellent pas trop souvent. Il y a encore une chose qui m'a surpris. En réglant avec la femme de charge, j'ai vu qu'un goûter de pain et de fromage avait été 2 fois servi à ses enfants pendant la dernière quinzaine. D'où cela vient-il? J'ai regardé sur le règlement, et je n'ai pas vu que le goûter y fût indiqué. Qui a introduit cette innovation, et de quel droit? Je suis responsable de ceci, monsieur, reprit Mademoiselle Temple. Le déjeuner était si mal préparé que les élèves n'ont pas pu le manger, et je n'ai pas voulu leur permettre de rester à jeun jusqu'à l'heure du dîner. « Un instant, madame. Vous savez qu'en élevant ces jeunes filles, mon but n'est pas de les habituer au luxe, mais de les rendre patientes et dures à la souffrance, de leur apprendre à se refuser tout à elles-mêmes. S'il leur arrive par hasard un petit accident tel qu'un repas gâté, on ne doit pas rendre cette leçon inutile en remplaçant un bien-être perdu par un autre plus grand. Pour choyer le corps, vous oubliez le but de cette institution. » De tels événements devraient être une cause d'édification pour les élèves. Ce serait là le moment de leur prêcher la force d'âme dans les privations de la vie. Un petit discours serait bon dans de semblables occasions. Là, un maître sage trouverait moyen de rappeler les souffrances des premiers chrétiens, les tourments des martyrs, les exhortations de notre divin maître lui-même qui ordonnait à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre. On pourrait leur répéter ces mots du Christ : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Puis aussi cette consolante sentence : heureux ceux qui souffrent la faim et la soif pour l'amour de moi. Oh, madame, vous mettez dans la bouche de ces enfants du pain et du fromage au lieu d'une soupe brûlée. Je vous le dis en vérité, vous nourrissez ainsi leur vile enveloppe, mais vous tuez leur âme immortelle. » M. Brockeler s'arrêta de nouveau, comme s'il eût été suffoqué par ses pensées. Mademoiselle Temple avait baissé les yeux lorsqu'il avait commencé à parler, mais alors elle regardait droit devant elle, et sa figure naturellement pâle comme le marbre en avait aussi pris la froideur et la fixité. Sa bouche était si bien fermée que l'oiseau du sculpteur eût semblé seul capable de l'ouvrir. Peu à peu, son front avait contracté une expression de sévérité immobile. M. Brockelhurst était debout devant le foyer. Les mains derrière le dos, il surveillait majestueusement toute l'école. Tout à coup, il fit un mouvement comme si son regard eût rencontré quelque objet choquant. Il se retourna et s'écria plus vivement qu'il ne l'avait encore fait. « Mademoiselle Temple ! Mademoiselle Temple ! Quel est cet enfant avec des cheveux frisés, des cheveux rouges, madame, frisés tout autour de la tête ?» Il étendit sa canne vers l'objet de son horreur. Sa main tremblait. « C'est Julius Severn, » répondit Mademoiselle Temple très tranquillement. « Julius Severn, madame, eh bien pourquoi, au mépris de tous les principes de cette maison, suit-elle aussi ouvertement les lois du monde ? Ici, dans un établissement évangélique, porter une telle masse de boucles ?»« Les cheveux de Julia frisent naturellement, » répondit Mademoiselle Temple avec plus de calme encore. « Naturellement, oui, mais nous ne nous conformons pas à la nature. Je veux que ces jeunes filles soient les enfants de la grâce. » Et pourquoi cette abondance ? J'ai dit bien des fois que je désirais voir les cheveux modestement aplatis. Mademoiselle Temple, il faut que les cheveux de cette petite soient entièrement coupés. J'enverrai le perruquier demain. Mais j'en vois d'autres qui ont une chevelure beaucoup trop longue et beaucoup trop abondante. Dites à cette grande fille de se tourner vers moi, ou plutôt, dites à tout le premier banc de se lever et de regarder du côté de la muraille. » Mademoiselle Temple passa son manchon sur ses lèvres comme pour réprimer un sourire involontaire. Néanmoins, elle donna l'ordre et, quand la première classe eut compris ce qu'on exigeait d'elle, elle obéit. En me penchant sur mon banc, je pus apercevoir les regards et les grimaces avec lesquels elles exécutaient leurs manœuvres. Je regrettai que M. Brockelhurst ne pût pas les voir aussi. Il eut peut-être compris alors que, quelque soin qu'il prît pour l'extérieur, l'intérieur échappait toujours à son influence. Il examina pendant 5 minutes les revers de ses médailles vivantes, puis il prononça la sentence. Elle retentit à mes oreilles comme le glas d'un arrêt mortel. « Tous ses cheveux, dit-il, seront coupés. » Mademoiselle Temple voulut faire une observation. « Madame, dit-il, j'ai à servir un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. » Ma mission est de mortifier dans ces jeunes filles les désirs de la chair, de leur apprendre à s'habiller modestement et simplement, et non pas à tresser leurs cheveux et à se parer de vêtements somptueux. Eh bien, chacune des enfants placées devant nous a arrangé ses longs cheveux en nattes que la vanité elle-même semble avoir tressés. Oui, je le répète, tout ceci doit être coupé. Pensez au temps que nous avons déjà perdu. » Ici, M. Brockelhurst fut interrompu. 3 dames entrèrent dans la chambre. Elles auraient dû arriver un peu plus tôt pour entendre le sermon sur la parure, car elles étaient splendidement vêtues de velours, de soie et de fourrure. 2 d'entre elles, belles jeunes filles de 16 à 17 ans, portaient des chapeaux de castor ornés de plumes d'autruche, ce qui, à cette époque, était la grande mode. Une quantité de boucles légères et soigneusement peignées sortait de ces gracieuses coutures. La plus âgée de ces dames était enveloppée dans un magnifique châle de velours bordé d'hermine. Elle portait un faux tour de boucle à la française. Ces dames, qui n'étaient autres que Madame et Mademoiselle Brocklehurst, furent reçues avec respect par Mademoiselle Temple. On les conduisit au bout de la chambre, à des places d'honneur. Il paraît qu'elles étaient venues dans la voiture avec M. Brocklehurst et qu'elles avaient scrupuleusement examiné les chambres de l'étage supérieur pendant que M. Brocklehurst faisait ses comptes avec la femme de chambre, questionnait la blanchisseuse et forçait la directrice à écouter ses sermons. Pour le moment, elles adressaient quelques observations et quelques reproches à Mme Smith, qui était chargée de l'entretien du linge et de l'inspection des dortoirs. Mais je n'eus pas le temps de les écouter, mon attention ayant été bientôt détournée par autre chose. Jusque-là, tout en prêtant l'oreille à la conversation de M. Brocklehurst et de Mlle Temple, je n'avais pas négligé les précautions nécessaires à ma sûreté personnelle. Je pensais que tout irait bien si je pouvais éviter d'être aperçu. Dans ce but, je m'étais bien enfoncé sur mon banc et faisant semblant d'être très occupé de mon addition, je m'étais arrangé de manière à cacher ma figure derrière mon ardoise. J'aurais sûrement échappé au regard si elle n'eût glissé de mes mains et ne fût tombée à terre avec grand bruit. Tous les yeux se dirigèrent de mon côté. Je compris que tout était perdu. Et je rassemblai mes forces contre ce qui allait arriver. L'orage ne se fit pas attendre. « Une enfant sans soin ?» dit M. Brocklehurst. Puis il ajouta immédiatement, « Il me semble que c'est la nouvelle élève. Il ne faut pas que j'oublie ce que j'ai à dire sur son compte. » Et il s'écria, il me sembla du moins qu'il parlait très haut, « Faites venir l'enfant qui a brisé son ardoise. » Seul, je n'aurais pu bouger, j'étais paralysée. Mes deux grandes filles qui étaient à côté de moi me forcèrent à me lever et me poussèrent vers le juge redouté. Mademoiselle Temple m'aida doucement à venir jusqu'à lui et murmura à mon oreille « Ne soyez pas effrayée, Jeanne. J'ai vu que c'était un accident et vous ne serez pas punie. » Ces bonnes paroles me frappèrent au cœur comme un aiguillon. Dans une minute, elle me méprisera et verra en moi une hypocrite, pensais-je. Et alors, un sentiment de rage contre Madame Reed et M. Brocklehurst alluma mon sang. Je n'étais pas une Hélène Burns. « Avancez cette chaise, » dit M. Brocklehurst en indiquant un siège très élevé d'où venait de descendre une monitrice. On la porta. « Placez-y l'enfant, » continua-t-il. J'y fus placée. Par qui ? C'est ce que je ne puis dire. Je m'aperçus seulement qu'on m'avait hissé à la hauteur du nez de M. Brocklehurst. Des pelisses en soie pourpre, un nuage de plumes argentées, s'étendaient et se balançaient au-dessous de mes pieds. « Mesdames, » dit M. Brocklehurst en se tournant vers sa famille, « Mademoiselle Temple, maîtresses et élèves, vous voyez toutes cette petite fille. » Sans doute elles me voyaient toutes. Leurs regards étaient pour moi comme des miroirs ardents sur ma figure brûlante. « Vous voyez qu'elle est jeune encore. Son extérieur est celui de l'enfance. Dieu lui a libéralement départi l'enveloppe qu'il accorde à tous. Aucune difformité n'indique en elle un être à part. Qui croirait que l'esprit du mal a déjà trouvé en elle un serviteur et un agent? Et pourtant, chose triste à dire, c'est la vérité. » Il s'arrêta. J'eus le temps de raffermir mes nerfs et de sentir ma rougeur disparaître. L'épreuve ne pouvait plus être évitée. J'étais décidée à la supporter avec courage. Mes chers enfants, continua le ministre, c'est une bien malheureuse et bien triste chose, et il est de mon devoir de vous en avertir. Cette petite fille, qui aurait dû être un des agneaux de Dieu, est une réprouvée. Loin de demeurer membre du troupeau fidèle, ce n'est plus qu'une étrangère. Soyez sur vos gardes. Défiez-vous de son exemple. S'il est nécessaire, évitez sa compagnie et éloignez-la de vos jeux. Ne l'introduisez pas dans vos conversations. Et vous, maîtresse, ayez les yeux sur tous ses mouvements peser ses paroles, examiner ses actes, châtier son corps afin de sauver son âme, si toutefois la chose est possible. Car cet enfant, ma langue hésite à le dire, cet enfant, né dans un pays chrétien, est pire que les idolâtres qui adressent leurs prières à Brahma ou s'agenouillent devant Yagernao. Cet enfant est une menteuse. » Il s'arrêta encore une dizaine de minutes, pendant lesquelles, étant en parfaite possession de moi-même, je pus voir sa femme et ses filles tirer des mouchoirs de leurs poches et les porter à leurs yeux. La plus âgée de ces dames inclinait sa tête à droite et à gauche. Quant aux plus jeunes, elles murmuraient sans cesse « Quelle honte !» Monsieur Brockelhurst s'écria pour finir « Toutes ces choses, je les ai apprises de sa bienfaitrice, de cette pieuse et charitable dame qu'il a adoptée alors qu'elle était une orpheline, qu'il a élevée avec ses propres filles, et cette malheureuse enfant a payé sa bonté et sa générosité par une ingratitude si grande que l'excellente Madame Reed a été forcée de séparer Jane de ses enfants, dans la crainte de voir son exemple entacher leur pureté. Elle l'a envoyée ici pour la guérir, comme les Juifs envoyaient leurs malades au lac de Bethesda. Directrice, maîtresse, je vous le demande encore, ne laissez pas les eaux croupir autour d'elle. » Après cette sublime conclusion, M. Brockelhurst attacha le dernier bouton de son pardessus et dit quelque chose tout bas à sa famille. Celle-ci se leva, salua Mademoiselle Temple et quitta cérémonieusement la salle d'études. Arrivé à la porte, mon juge se retourna et dit « Laissez-la encore une demi-heure sur cette chaise, et que personne ne lui parle pendant le reste du jour. » J'étais donc assise là-haut, moi qui avais déclaré ne jamais pouvoir supporter la honte d'être debout au milieu de la salle, je me trouvais maintenant exposée à tous les regards sur ce piédestal de honte. Aucun langage ne peut exprimer mes sensations. Mais au moment où elle gonflait ma poitrine, une jeune fille passa à mes côtés. Elle leva les yeux sur moi. Quelle flamme étrange y brillait! Quelle impression extraordinaire me produisit leur lumineux regard! Je me sentis plus forte. C'était un héros, un martyr qui, passant devant une victime ou une esclave, lui communiquait sa force. Je me rendis maîtresse de la haine qui me montait au cœur. Je levai la tête et je me tins ferme sur ma chaise. Hélène Burns fit à Mademoiselle Smith une question sur son travail. Elle fut grondée pour avoir demandé une chose aussi simple, et en s'en retournant à sa place, elle me sourit de nouveau. Quel sourire ! Je me le rappelle maintenant. C'était la marque d'une belle intelligence et d'un vrai courage. Il éclaira ses traits accentués, sa figure amaigrie, ses yeux abattus, comme l'aurait fait le regard d'un ange. Et pourtant, Hélène Burns portait au bras un écriteau où on lisait ces mots « Enfant désordonné ». Une heure auparavant, j'avais entendu Mademoiselle Scatcherd la condamner au pain et à l'eau pour avoir taché un exemplaire d'écriture en le copiant.